Qu'est-ce qui définit le caractère public ou privé sur les réseaux sociaux? C'est une question qui peut paraître étrange, mais c'est une question centrale en ce qui concerne le droit. En fait, le tribunal étudie la communauté qui a accès au message ou à la publication. Alors la question, c'est de savoir jusqu'où c'est privé. Sur Facebook, vous le savez, on peut ne publier qu'à un seul de ses amis, à quelques-uns, à tous ses amis, voire aux amis de ses amis aussi, ou alors à tout le monde, c'est pas pareil. Et il faut savoir qu'une insulte, par exemple, n'a pas la même valeur et la même sanction, selon. Sur Twitter, en revanche, les messages sont potentiellement accessibles par tout le monde et relayé à l'infini. À moins d'être en privé, comme on dit, Twitter est un espace public. Et la question se pose même de savoir si le retweet d'une injure qui vaut relais et citation ne vaut pas injure. Il faut se poser la question parce que de 38 euros jusqu'à 750 euros s'il s'agit d'une injure raciste, sexiste, homophobe ou visant les handicapés, la sanction passe de 12 000 euros jusqu'à 22 500 euros et 6 mois de prison. Il faut se poser la question, mais ce qui me frappe, moi, dans l'incroyable outil de communication, d'expression, d'ouverture à l'autre que constitue ces réseaux, c'est la responsabilité et la connaissance du droit qu'il suppose, ainsi que la réflexion sur l'espace du privé et du public qui s'impose.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui interroge le racisme, notamment sur les réseaux sociaux aussi. Chanteur, DJ, danseur, ardent ambassadeur du voguing en France, cette danse née aux États-Unis qui prône l'irrévérence et la fierté d'être soi. Il a sorti un premier album il y a quelques mois et sera en concert le 4 avril prochain à La Cigale. France Inter le défend depuis ses tout débuts. C'est un honneur de le recevoir. Bonjour Kid Ismaël.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être là ce matin. Comment vous faites? Comment on compose face à une insulte sur les réseaux sociaux?
Il y a plusieurs façons déjà de recevoir une insulte. Au départ, moi, ce que j'ai fait, c'est que je répondais aux gens. Et soit j'étais aussi vulgaire qu'eux, ce qui m'a été déconseillé en général de faire. Mais les insultes racistes, en général, moi, je signale. J'essaie de pas les prendre personnellement, mais après c'est sûr que c'est plus souvent les gens qui aiment pas qui se manifestent, et du coup c'est assez dur de voir clair qu'en fait il y a plus de gens en fait qui apprécient que de gens qui haïssent.
Pour vous, les réseaux sociaux ont changé quelque chose dans la manière dont s'exprime le racisme aujourd'hui?
Complètement, parce que je pense qu'il y a une certaine impunité derrière l'anonymat en fait, et les gens se peuvent juste maintenant se déverser et vomir leur haine, et en se disant je suis pas affiché par mon visage, c'est pas mon nom, il y a des pseudonymes, donc il y a beaucoup de choses qui font que maintenant un propos raciste est lancé comme ça et raciste ou sexiste ou homophobe mais qui est comme ça dématérialisé de son origine et de qui l'émet en fait.
À quoi on s'expose, Kid Ismaël, quand on affiche publiquement qui on est? Comme ça a toujours été votre cas?
Quand on s'affiche publiquement, beaucoup d'insultes, mais je pense plus d'amour quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient, je reçois énormément de messages de gens qui me disent ça fait du bien de voir quelqu'un comme toi qui s'assume, qui est heureux. Alors c'est bien de s'afficher. Après, c'est aussi pas évident aussi tous les jours, parce qu'il y a des jours où les insultes font plus mal.
Lors de la soirée organisée par l'Élysée, à l'occasion de la fête de la musique, vous portiez un t-shirt sur lequel on pouvait lire « Fils d'immigrés, noir et pédé ». Quelle réaction est-ce que ça a provoqué?
Alors moi, quand je suis parti avec ce t-shirt, je pensais que mes seuls soucis allaient être d'offenser les gens à l'Élysée. J'avais aucune idée de ce que ça allait déclencher le lendemain dans la sphère politique et dans toute la France, où les gens m'ont reproché un peu de venir avec un discours politique, alors qu'en fait, moi, il n'est pas politique, en fait, c'est juste mon identité.
Oui.
Et je suis un Français comme les autres, et du coup, je revendique qui je suis dans ma maison.
Et en même temps, c'est passionnant, parce que ça dit quelque chose, ce slogan, ce message. En quoi l'origine, comme la sexualité ou la couleur de peau, sont des thèmes qui ne peuvent pas et qui ne doivent pas être pensés séparément? Parce que c'est ça que vous dites. En fait.
Exactement. Moi, j'adore cet auteur, Kimberlé Crenshaw, qui a inventé le terme d'intersectionnalité, qui explique en fait que les oppressions sont pas parallèles, elles sont vécues simultanément et qu'elles sont différentes. L'oppression que subit une femme transsexuelle handicapée ne sera pas la même chose que un homme musulman, homosexuel. C'est pas le même, c'est pas la même oppression. Et du coup, c'est indissociable. C'est l'ensemble de ce qu'on est qui crée les oppressions et, mais aussi qui fait aussi la richesse de, du pays dans lequel on vit.
Cette convergence des discriminations et des luttes, elle est pour ainsi dire à l'origine de la naissance du mouvement ballroom et du voguing. Comment sont nés ce mouvement et cette danse dont vous êtes aujourd'hui en France, Kid Ismaël, l'un des défenseurs, l'un des ambassadeurs en fait? Comment ça a commencé?
Ça, alors aux États-Unis, ça a commencé parce qu'il y avait des concours de drag queen et qu'ils étaient organisés toujours à Manhattan dans des dans des lieux très prestigieux et qui demandaient être une drag queen, ça demande beaucoup. Beaucoup d'investissement.
Ouais.
Oui, c'est beaucoup d'investissement. Faut les cheveux, faut la perruque, faut les vêtements, faut le make-up. Et en fait, c'était toujours des gens blancs qui gagnaient, en fait. Et du coup, les gens de couleur en ont eu un peu assez et ont décidé de se replier à Harlem, dans leur quartier, et de faire leur propre ball. Et c'est comme ça que c'est né. C'est né du racisme à l'intérieur de la communauté LGBT.
Et qu'est-ce qui caractérise cette danse, le voguing, du point de vue des mouvements, des enchaînements?
Alors c'est une danse qui est très inspirée, un, des arts martiaux, deux poses de magazines. Et en fait, c'est qu'au début d'un ball, quand on arrive à un ball, qui sont en fait ces événements où les gens s'affrontent par rapport à leur talent, il y a une présentation des personnages principaux et des acteurs de la scène. Et souvent, les gens venaient avec des costumes hyper dramatique et hyper impressionnant comme ça, et on leur demandait de poser pour qu'on puisse voir de chaque angle, en fait.
Comme sur une couverture de Vogue.
Exactement, sauf qu'il y avait de la musique, ouais. Et du coup, pour transitionner entre chaque pose, bah, il y avait de la danse, et du coup, c'est comme ça qu'est née cette danse.
Et ça se danse sur quoi? Sur quel type de musique?
Bah, c'est une culture très club, donc ça s'est dansé sur du disco, ça s'est dansé sur de la house, et maintenant, il y a tout un courant musical qui est né à partir d'un morceau de Masters at Work qui s'appelle The Hard Dance, et qui a créé ce je ne sais pas s'il y a un nom, mais nous on l'appelle ballroom music.
Ça peut se danser sur du Kid Ismaël ou pas?
Bien sûr, parce que c'est de la house, et puis en fait quand on est un vogueur, on est un bon danseur et on peut danser sur tout, hein, même sur Claude François.
Vous savez quoi, on ferme les yeux, on vous écoute, on essaie d'imaginer des gens qui dansent comme ça, qui voguent. Ça y est, moi j'en vois deux ou trois. Kid Ismaël, pour vous donner une idée, c'est ça. Kid Ismaël, Let a Bitch Know, le titre qui vous a mis le pied à l'étrier il y a 3 ans et dont il faut absolument voir le clip. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer dans cette vidéo, d'ailleurs?
En fait, c'était surtout une... Enfin, si je dois être honnête, c'est que moi, j'essayais de faire de la musique et tout, et puis ça avait une petite audience et ça prenait pas plus. Et j'essayais surtout j'étais sur le point d'arrêter, en fait, et je me suis dit, j'aimerais laisser une vidéo qui va aider des jeunes de banlieue ou autres contrées où il est difficile de s'assumer en tant qu'homosexuel, de ne pas se sentir seul. Donc j'ai décidé de nous remettre en fait dans un milieu. Nous, on est tous des jeunes un peu issus de l'immigration, on a tous grandi dans une cité. Donc on s'est installé dans une cité et puis on a été nous-mêmes. Et les riverains n'ont pas trop apprécié, mais... Mais on est là, on existe et on va pas se cacher.
Est-ce qu'il existe un lieu en dehors des clubs où il est possible de voguer, de laisser s'exprimer ses goûts, ses préférences en toute liberté, sans courir le risque d'être jugé, à votre avis?
Ah, mes concerts. Si vous venez à mes concerts, vous pouvez être vous-même. Je vous encourage d'ailleurs à être vous-même. Mais au-delà, non, toute blague confondue, je ne vois pas d'autre espace. C'est pour ça que les balls de voguing sont importants, parce que c'est encore des espaces où on encourage les gens dans la recherche de leur identité et de leur sexualité, et que c'est quelque chose de très important.
Quand est-ce que vous avez compris que vous n'étiez pas dans la norme? vous ?
Ah, mais tout de suite, déjà de base, quand j'étais petit, j'ai déjà un problème à mes jambes, donc je suis né moi avec les pieds rentrés vers l'intérieur, donc j'avais déjà des chaussures orthopédiques, donc pendant jusqu'à 8 ans. Et après, genre à 11 ans, j'ai une poussée et j'ai grandi, j'étais plus grand que tout le monde, donc j'ai toujours été un peu dans les normes. J'ai réalisé ma sexualité aussi très très tôt, je savais que c'était quelque chose qu'il fallait garder secret, pas trop en parler, quoi. Et non, ça a été, j'ai toujours été un peu comme ça, hors norme.
Et la danse, elle intervient à quel moment, Kid Ismaël ?
Je faisais du volley, j'étais sur le point de rentrer en équipe nationale. Et il y a un animateur de quartier qui nous a proposé de faire de la danse. Et j'ai relevé le défi d'une copine qui me disait « Mais toi, tu n'y arriveras pas. » Et je me suis pris au piège et j'ai adoré ça. Et j'ai fait des études en parallèle. Enfin, j'allais à l'école et je faisais aussi une école de danse. J'allais à l'école de danse le matin.
Ça a tout de suite été une expérience libératrice pour vous, la danse ?
Complètement. J'ai compris que je pouvais exprimer beaucoup de choses à travers des mouvements.
Qu'est-ce que vous ressentiez quand vous dansiez ?
Beaucoup de liberté. Je trouvais que c'était aussi un moyen pour moi d'être en phase avec ma féminité, qui n'était pas forcément quelque chose sur lequel, dans la société, on laisse les hommes s'exprimer sur leur féminité. Et je trouvais que c'était pour moi un parfait moyen de parler de moi dans sa totalité. Alors, je l'ai fait via le hip-hop, et ensuite la danse contemporaine et street jazz, mais... Le hip-hop, ça me convenait pas parce que je savais que je pouvais exprimer qu'une partie de qui j'étais, c'est-à-dire ce garçon qui vient d'un quartier et qui est issu de l'immigration, mais je trouvais pas le moyen de connecter ça à ma sexualité. Et c'est pour ça que les espaces comme les balls sont importants, parce que quand j'ai découvert les balls beaucoup plus tard, je me suis dit j'aurais adoré qu'il y ait ça quand j'avais 13 ans. Et je voulais être la personne qui diffuse ce message, qu'il y a un espace pour les jeunes issus de la communauté LGBT, de pouvoir s'exprimer à travers la danse ou d'autres talents, ou que ce soit la mode, ou que ce soit les talents de beauté, ou que ce soit juste venir et se retrouver autour de gens qui nous ressemblent.
Ressentir de la liberté, celle qui ne ressent rien dans cette émission et qui est bien trop raide et étroite d'esprit pour voguer, sans doute la connaissez-vous, c'est la culture et son actualité marche ou crève, ou on achève bien les chevaux de Petaou Schnock à Nouméa. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 26 mars ? In the port of Amsterdam, where the sailors all meet, there's a sailor who eats only fish heads and tails. He will show you his teeth. L'heure du crooner, chanteur américain de légende, Scott Walker est mort hier. Il avait 76 ans, artiste énigmatique et auteur d'une pop baroque hors norme. Il avait commencé sa carrière au début des années 60 avec le groupe The Walker Brothers, avant de privilégier en solo une pop expérimentale et radicale. Influence majeure de David Bowie, Radiohead ou Alex Turner, il laisse près d'une vingtaine d'albums, dont l'un entièrement composé de reprises en anglais des chansons de Jacques Brel. Respect.
Il fallait absolument adapter le temps moderne aux monuments anciens. Voilà ce que ça donne.
Pour le meilleur et pour la pyramide voulue par François Mitterrand et imaginée par l'architecte Léo Ming-Pei, la pyramide du Louvre fête ses 30 ans cette année. Pour l'occasion, 30 événements sont prévus jusqu'en février 2020, à commencer par l'installation collaborative du street artist JR, qui débute aujourd'hui avec le concours de 400 volontaires. L'artiste à chapeau va couvrir de papier la cour Napoléon pour créer un trompe-l'œil géant, révélant les fondations du monument. Par la suite, Jean-Michel Autoniel, Pierre Soulages ou encore le chorégraphe Kader Atia, notamment, viendront compléter cette programmation anniversaire d'enfer. Eternal Sunshine of Michel Gondry, le cinéaste génial français, roi du do-it-yourself, a réalisé le clip de Grand Petit Con, chanson extraite du nouvel album de Mathieu Chédid, entièrement tournée avec du carton, des ciseaux, de la colle en tube et un iPhone. La vidéo mise en ligne hier est un petit bijou d'animation loufoque et poétique. Ça n'est pas la première expérience de Michel Gondry comme clipper, loin de là. On lui doit des dizaines de vidéos musicales, notamment pour Björk, Daft Punk, I Am ou Metronomy. C'est ça, c'est gratuit, c'est que chie. Merci Mimi.
Alors la première page, c'était des animaux ou des choses. Il y a des bateaux qui sont bizarres. Moi, j'aime bien.
Les arts vivants dans tous leurs états. C'est aujourd'hui à Nantes que s'ouvrent les états généraux des arts vivants, enfance et jeunesse. Un rendez-vous institutionnel pour réfléchir aux différents aspects et enjeux de la création artistique pour le jeune public. Au programme ateliers, rencontres et débats dans la foulée, Nantes accueillera le joli festival pluridisciplinaire Petits et Grands qui proposera une quarantaine de spectacles de danse, de théâtre, de cirque ou de marionnettes au prix unique de 4 euros en avant les marmots. le chanteur Kid Ismaël, invité de Boomerang ce matin. Je le disais tout à l'heure, vous avez été DJ, danseur, organisateur de soirées, mais aussi styliste. À quel moment est-ce que vous avez été rattrapé par la musique, en fait?
Alors, j'ai auditionné en tant que danseur pour Madonna. Et c'est un processus un peu comme ça, un très lourd processus. On part 2 semaines, on va à New York et il y a des gens qui sont éliminés tous les jours. Et je suis resté jusqu'à la fin. Et,
c'est un concours de voguing en fait.
Pas vraiment, mais ça aurait pu. Ça en a tout l'air, mais pas vraiment. Non, plus sérieusement, à la fin de cette audition, j'ai pas été retenu. Et ce qui, la remarque qui m'a été faite et qui le retour qui m'a été donné était que il savait pas trop quoi faire de moi parce qu'il travaillait sur des binômes et il savait pas avec qui me mettre par rapport à mon physique. Et du coup, je suis rentré un peu comme ça à Paris et j'ai fait une introspection. Je me suis dit peut-être que je devrais être honnête et me dire la raison pour laquelle je voulais danser absolument pour Madonna. C'était ce clip qu'elle a fait Like a Prayer, mm-hmm. où il y avait un Jésus qui était noir. Et j'ai trouvé ce message tellement fort et c'est de là d'où vient mon respect pour Madonna. Et je me suis dit, peut-être que toi aussi, tu as des choses à dire. Et si tu es honnête, en fait, tu as toujours aimé chanter. Tu voulais être danseur pour être sur scène, mais pas porter complètement le poids de tout un show. Va jusqu'au bout de ce que tu veux faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la musique.
Et puis, il y a la chanteuse Bess Ditto de Gossip qu'on avait reçue à ce micro. Un jour, elle vous a invité comme pour prendre le thé. À venir la rejoindre sur scène. Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Elle m'a tout simplement dit, tu fais quoi le 10 avril? Et je dis, c'est mon anniversaire. Elle m'a dit, ça te dirait de venir à Coachella avec nous? Je dis, ouais.
Mais vous l'aviez rencontré où?
Je l'ai rencontré dans un défilé. Parce que dans ma période un peu styliste, je m'occupais d'un chanteur français. Et il était assis à côté d'elle et moi j'étais assis juste derrière elle. Et elle n'arrêtait pas de se tourner pour me parler. Je pense qu'elle aimait bien mon look. Et elle m'a fait une blague. Elle a dit, je pense que c'est nous les deux plus grosses personnes du défilé. Et je pense qu'ils nous ont assis l'un derrière l'autre pour pas qu'on se sente seul. Et c'est comme ça que notre amitié est née.
Il faut dire que la mode est absolument centrale chez vous. Kid Ismaël, elle a toujours beaucoup compté. D'où est-il venu ce goût pour le vêtement? Ça vient d'où?
De ma mère. Ma mère est une très grande couturière. Elle était venue en France d'ailleurs parce qu'elle voulait travailler chez Chanel et son rêve n'a pas abouti parce qu'elle s'est pas sentie d'y aller en fait. Mais ma mère était une femme avec un sens du style incroyable.
Qu'est-ce qu'elle portait? Qu'est-ce qu'elle porte encore?
Elle fait elle-même c'est des répliques de tailleur Chanel. Mais incroyablement, c'est une femme très dans l'assortiment, quoi. Elle est très première dame et elle déteste comment je m'habille.
Ah, c'est vrai? C'est la question que j'allais vous poser. Quel regard est-ce qu'elle porte sur vous?
Elle ne comprend absolument pas.
Mais elle vous dit quoi?
Elle me dit, je ne comprends pas comment j'ai pu faire un fils avec si mauvais goût. Et je dis, il y a que toi qui trouves que j'ai mauvais goût. Enfin, toi et les gens qui ont mauvais goût.
En tout cas, ça dit quelque chose, j'ai l'impression, de votre conception du vêtement. C'est quoi au juste un vêtement pour vous?
Pour moi, le vêtement, c'est beaucoup de choses. Premièrement, c'est pour moi une armure. C'est quelque chose. Oui, c'est une armure. C'est quelque chose qui me permettait pour moi de protéger mon corps parce que j'étais beaucoup plus gros que ce que je suis maintenant et je mettais du vêtement en fait pour camoufler ça. Mais ensuite, j'ai très vite pris conscience que, puisque de toute façon, je suis à pratiquement 2 mètres, on allait forcément me voir, que je me fasse plaisir et que j'avais des choses aussi à dire avec le vêtement, parce que le vêtement, c'est une forme non verbale de communication. On peut dire énormément de choses avec un vêtement, comme à l'Élysée.
À peu près. On pourrait faire cette comparaison, effectivement. Et quand est-ce que vous avez eu le sentiment de la faire tomber, l'armure, Kid Ismaël?
En montant sur scène et de voir déjà tous ces gens qui viennent. Moi, j'ai toujours cette peur de me dire, est-ce qu'il y aura des gens quand je vais me mettre en représentation?
Bien sûr qu'il y en aura.
Oui, il y en a déjà. Il y en a, oui. Ouais.
Il y en aura encore plus après cette émission, on est conscient.
J'espère. Mais j'ai toujours ce truc de ce que les gens vont venir, mais une fois que je monte sur scène et que je suis avec les gens et que je me sens à l'aise de faire tomber cette armure et de faire aussi passer maintenant de façon verbale mon message.
Vous êtes honnête là avec moi?
Ah oui?
Toujours?
Eh oui, moi je ne suis, c'est mon plus grand défaut, je crois.
Be Honest. Eh ben oui, vous me voyez venir évidemment. Parce que Be Honest, c'est le nom d'un des titres de votre premier album One Trick Pony que j'aime beaucoup, je suis pas le seul. Alors on va danser tous les deux, puis avec les gens en régie aussi qui commencent déjà à voguer. Vous êtes sur France Inter avec Kiddy Smile. Vous écoutez Boomerang, on est mardi.
Days trying hard to get your attention, but it ain't working. Yeah, I've been spending all my nights and time crying. Won't you get that right? Satisfaction guaranteed. You just keep on digging, yeah. Satisfaction guaranteed.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
Vous connaissez la chanson, vous promettez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, dites-le, je le jure, bah je le jure, hein, il est l'invité de Boomerang, le plus grand que l'on ait jamais reçu, plus grand que Patrick Modiano, c'est vous dire, et plus grand que moi, et que Numa, quelque part entre Michael Jordan et le géant vert, si haut qu'on peine à voir son visage, dont on perçoit pourtant la douceur du regard qui vous enveloppe, qui vous rassure. Merci qui dit, avec son pantalon taille haute écossais, taillé par sa mère, m'a-t-il dit pendant le disque, avec sa veste en jean raccourci. Le chanteur Kiddy Smile, donc invité de Boomerang ce matin pour parler de musique. Quand même, on vient d'entendre l'un de vos titres qui s'inscrit dans un genre qu'on passe assez peu sur cette antenne, à savoir la house music, tandis qu'il vient de mettre sur son visage des lunettes arc-en-ciel en forme de cœur. Qu'est-ce que c'est la musique house? Comment ce courant musical est né, Kiddy?
Alors, c'est né à Chicago, essentiellement, ça a été nommé House Music par un grand DJ qui s'appelle Frankie Knuckles, qui nous a quittés il y a pas longtemps, mais c'est encore une culture LGBT, noire et latino, qui nous est venue des États-Unis.
Et techniquement, par quels sons, par quelles ambiances, par quel rythme est-ce que ça se caractérise?
Bah, par un gros kick, souvent de jolies mélodies. Moi, ce que j'aime essentiellement dans la house, c'est quand il y a des gros chœurs gospel qui rentrent et qui nous font nous sentir moins coupables d'être dans un club et un peu plus à l'église.
C'est pour ça, en fait, que vous réutilisez le gospel. C'est pour les raisons de culpabilité.
Probablement.
Ben, probablement.
Dimanche matin, on dort.
En tout cas, la house music, c'est bien une musique qui rassemble, vous le disiez, une musique sur laquelle on n'a pas d'autre choix que de danser. Pour autant, plus jeune et encore aujourd'hui, j'imagine que vous n'écoutiez pas que ça, Kiddy Smile.
Non, moi, j'écoutais beaucoup de hip-hop et de funk. De la P-funk, pour être précis.
Ça veut dire quoi?
La P-funk, je ne sais pas ce que ça veut dire.
Une funk joyeuse.
Mais j'adorais Parliament, George Clinton, J'écoute aussi beaucoup de Isaac Hayes, Zapp & Roger.
Avec votre mère, Kid Ismaël, qu'on a décidément adopté dans cette émission, vous écoutiez ça?
J'écoutais ça de mon côté. Ma mère, elle était plus fan de Aretha Franklin, James Brown, Donny Hathaway. Mon frère s'appelle James, à cause de James Brown, ou grâce à James Brown.
Et cette musique-là, elle a imprégné votre musique aujourd'hui?
Je pense indirectement. Moi, je pense que la musique à laquelle on a grandi nous imprègne. Je pense que oui, cette musique-là m'a essentiellement influencé. Mais ma mère écoute aussi beaucoup d'Enrique Iglesias et je ne pense pas que ça m'a influencé.
Vous venez juste de lui envoyer un petit coup là.
Non. À Enrique? Ouais. Non, pas Enrique,
à votre mère.
À ma mère? Ouais. Ah oui.
Ouais, toujours.
C'est notre relation, on s'envoie des petits. Elle n'aime pas mon style, j'aime pas trop sa musique.
Des chansons tristes aussi?
Oui. Ma mère adorait aussi, elle est très présente effectivement. The Eagles.
Ouais.
C'est pas mal de chansons tristes quand même. Mais oui.
Il y a des chansons qui manquent jamais de vous faire pleurer, Kid Ismaël, vous?
Je pleure pas en écoutant des chansons, mais peut-être en voyant les artistes les interpréter. Moi, j'avais vu Adèle quand elle avait sorti son album 19, et c'est dans une toute petite salle, je me rappelle plus où c'était. Je me rappelle plus, c'était une toute petite salle et c'était très saisissant, et oui, ça faisait pleurer, ce Hometown Glory.
Parce que vous avez choisi de rassembler, mais rassembler par la danse, par la joie et pas par les larmes. Ça, c'est un parti pris très fort.
Oui, parce que je pense que moi, j'ai envie de faire du divertissement et j'ai aussi envie d'utiliser la danse. Et je pense que je suis dans un moment de ma vie où je me sens très très joyeux et j'ai envie de le partager avec les gens. Je pense que de toute façon, on peut pas de toute façon être joyeux tout au long de sa carrière. Je pense que j'aurai aussi des moments où il y aura des choses un peu plus sombres.
En fait, ça se trouve, il y a des gens qui pleurent dans le noir en écoutant votre musique et vous le savez pas.
Et ce serait beau, pleurer en dansant.
Ouais. Ça vous est déjà arrivé, ça?
Ah, énormément. Ouais.
Dans quelles circonstances?
Énormément. Bah, des fois, quand tu danses et tout, t'es très en symbiose avec la musique et puis tu commences à ressentir des choses et puis tu contrôles pas forcément sur quoi tu vas tomber quand tu es en train de te connecter à la musique. Et des fois, c'est des choses très joyeuses, mais, et des fois, c'est aussi des choses un peu tristes.
Pour terminer cette émission, vous avez choisi de reprendre pour nous, accompagné au clavier par Jérémy Châtelain, et qui nous a rejoint dans ce studio, une chanson de Sam Sparrow qui s'appelle Black and Gold. Pourquoi ce titre-là?
C'est un des artistes qui m'a aidé à trouver la direction musicale que je voulais prendre. C'est aussi quelqu'un qui est devenu mon ami et que j'idolâtre énormément. Mais c'est aussi quelqu'un qui a participé à la composition de mon album.
Et quelle reprise est-ce que vous allez nous proposer ce matin?
Alors c'est Black and Gold et c'est le titre qui lui a permis de se faire connaître au grand public.
Avec un immense succès. Mmh. Jérémy, vous êtes prêt?
Ouais.
Alors on y va.
If the fish swam out of the ocean and grew legs and they started walking, if the apes climbed down from the trees and grew tall and they started talking, if the stars fell out of the sky and my tears rolled into the ocean, and I'm looking for a reason why you even set my world into motion. 'Cause if you're not really here, then the stars don't even matter. Now I'm filled to the top with fear that it's all just a bunch of matter. 'Cause if you're not really here, then I don't wanna be either. I wanna be next to you. Black and gold, black and gold, black and gold. Black and gold. I look up into the night sky, seeing southern stars staring back. And all around these golden beacons, I'm seeing nothing but black. I feel the way of something beyond them, don't see what I can feel. Evasion is the only validation, and most of my life is unreal.
Cause if you're not really here, then the stars don't even matter. Now I'm filled to the top with fear that it's all just a bunch of matter. Cause if you're not really here, then I don't wanna be either. I wanna be next to you. Black and gold, black and gold, black and gold, black and gold, but black and gold. Really here, then the stars don't even matter. Now I'm filled to the top with fear that it's all just a bunch of matter. Cause if you're not really here, then I don't wanna be either. I wanna be next to you. Black and gold, black and gold, black and gold.
Merci Kid Ismaël pour cette joie.
Merci
ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire Black and Gold pour vous? Qu'est-ce que ça évoque?
Ah, je trouve que c'est une super chanson, je trouve, de parler de l'amour, mais en même temps de parler de sa relation avec Dieu. C'est ce que moi j'entends dans la chanson. Je trouve que c'est une belle comparaison entre la spiritualité et l'amour qu'on peut vivre avec quelqu'un.
Il y a un peu tout ça chez vous?
Ah oui, moi je suis plein de choses.
Merci, on l'a compris, d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que votre premier album, Kid Ismaël, One Trick Pony, est disponible, que vous serez en concert à La Cigale le 4 avril pour clore votre tournée, bientôt à nouveau dans toute la France, on l'espère, pour cet album ou pour le prochain. Je voudrais dire aussi que le clip de votre nouveau titre Slap My Butt, que je ne traduirai pas ce matin parce qu'il est 9h39 quand même et qu'on est sur France Inter, sort vendredi. Qui dit que ça va être un événement, ça aussi j'en suis sûr. Et tout de suite c'est l'heure des médias avec Sonia De Villers.
On est là Augustin et on se retrouve demain.
On se retrouve demain, évidemment. À
ciao.
Demain.